à toutes et à tous et bienvenue dans la première casse. Aujourd'hui, l'émission est un peu particulière. Sylvain, Alice et Sébastien sont tous les trois pris par leur travail. On profite donc de ce petit creux pour improviser et on souhaite la bienvenue à Isa. Salut Isa.
Salut tout le monde.
Qui est venue nous accompagner en souvenir du bon vieux temps des débuts de l'association. Aujourd'hui, équipe réduite et donc format réduit, on en profite pour lancer un gros appel au bénévolat, au partenariat. Que vous souhaitiez participer à l'émission avec nous, créer la vôtre ou simplement échanger avec nous sur vos projets culturels ou musicaux ou autres, contactez-nous sur notre page Facebook Radio Gecko, sinon par mail à webreporters@gmail.com ou encore au 06 17 05 83 47. Radio Gecko, c'est aussi votre radio, une plateforme libre pour partager et échanger notre culture dans notre région. Cette radio existe grâce à vous et nous continuerons toujours, même en équipe réduite ponctuellement, à être au rendez-vous pour vous. Panda, lui, est au rendez-vous. Salut Panda.
Salut.
Pour faire partager un groupe original, comme à chaque fois.
Oui, viens, on est bien.
Tu présentes quel groupe ?
Aujourd'hui, ce sera Elastica.
Allez, bah, je te laisse commencer alors.
Allez, bienvenue tout le monde. C'est la chronique musicale, comme d'habitude, pas vraiment populaire, mais pas vraiment élitiste non plus. Aujourd'hui, comme dit, nous allons parler d'un groupe à l'ascension fulgurante, mais à la fin tout aussi abrupte, Elastica. On a l'habitude maintenant dans cette chronique. Ce groupe a été formé par les deux ex-membres du groupe Suède, Justin Frischmann et Justin Welch, respectivement chanteur, guitariste et batteur, chanteuse d'ailleurs, tiens. Musicalement, les horizons sont Britpop, post-punk et New Wave. En France, les personnes les moins informées sur ce groupe le connaissent au moins par le morceau Two.One, pardon, que l'on retrouve sur la BO de Trainspotting. On écoute un extrait. Ça va parler à beaucoup de gens, ça, forcément. Alors, bah, pourquoi parler d'une ascension fulgurante ? Tout simplement parce que le groupe s'est formé en 1992 et il sortira son premier EP en 1993 et sera d'entrée diffusé en boucle sur les ondes de la BBC. Il s'appelle Slaughter. En 1994, suivent alors les deux singles Line Up et Connection. Les deux se retrouvent dans le top 20 des charts singles au Royaume-Uni. En 1995, l'album sort et c'est le carton immédiat. Il arrive en premier dans les charts anglais. D'ailleurs, depuis l'ouragan Oasis, c'est la première fois qu'un album se vend autant en si peu de temps, outre-Manche. Il faudra attendre 2006 et l'album des Arctic Monkeys pour observer un tel décollage des ventes. Seulement voilà, les polémiques arrivent. On les accuse de plagier d'autres groupes, d'abuser des accords à peine changés d'un morceau à l'autre. Qu'importe, les morceaux passent en club, la BO de Trainspotting arrive, la présence dans les grands festivals internationaux est assurée. Les fans sont nombreux et le groupe devient une référence en peu de temps. Mais voilà, le manque de créativité du groupe crée un vide de second souffle. Aucun morceau nouveau ne sort, aucun projet d'album. Compliqué de vendre un concert avec toujours les mêmes 12 morceaux pendant plus de 3 ans. Le phénomène Elastica s'estompe alors. Et c'est presque dans l'anonymat que sort The Menace en 2000, le second album. Plusieurs membres ont changé entre-temps, les disputes ont laissé des traces, les ventes ne sont pas au rendez-vous et le coup de grâce est posé par ce groupe éphémère qui se sépare en 2001. Il en reste un album exceptionnel avec des singles qui ont fait danser toute une génération fan d'indie pop. Certains ont parlé d'une reformation pour 2014, le vent de l'opportunisme souffle sur ces groupes cultes du passé, mais pour le moment c'est au point mort. Les plus jeunes sont sûrement passés à travers ce groupe, les plus anciens ont dû les oublier. On s'écoute dessus de Connection pour se remémorer Elastica.
We'll be right back.
made.
Pour ceux qui veulent faire autre chose que du cinéma, je vais vous aider un petit peu en parlant de l'actu sortie. Demain, vendredi 10, 4e édition des soirées Prohibition au Perroquet Bleu de Marseille. À l'électrode de Miramas, retrouvez un concert rock avec Just Know Why, Sick et Sad Hours. Samedi 11 mars, rendez-vous à Saint-Rémy-de-Provence pour un carnaval hors du commun qui mêle tradition et grande fête nocturne animée par Panda. Si vous préférez suivre le programme de Sylvain, ça se passe sur Aix-en-Provence, toujours ce 11 mars, pour la rencontre-concert avec Gaël Faye, dont Sylvain nous a parlé et nous reparlera après cette rencontre. Jeudi 16 mars, rendez-vous à nouveau au Perroquet Bleu à partir de 18h pour l'inauguration des premiers véritables afterwork londoniens de Marseille. Vendredi 17 mars, découvrez la première édition du Dark Fest à l'électrode de Miramas avec Blazing War Machine, Nereids, Existence et Knil, si je prononce bien.
Nereids. Il fallait le dire.
Donc vendredi 17, c'est aussi la Saint-Patrick. Et qui dit Saint-Patrick dit pub. Si vous êtes à Marseille et pour reprendre de bonnes habitudes, j'ai sélectionné pour vous le pub La Fée Verte, véritable pub à la française, dans un cadre exceptionnel avec un large choix de boissons originales, absinthe, bière, cocktail avec et sans alcool et autres découvertes. Si vous êtes sur Martigues, par exemple, Joël se ferait un plaisir de vous accueillir au pub Les Vannes, une institution du pays Martégal. D'autres pub à conseiller pour les sorties ?
Bon, alors, sur Marseille, il y a le Bradys qui est incontournable puisque ça a été le premier pub irlandais de la région. Donc, vraiment à faire, si on veut vraiment le côté Saint-Patrick, on va dire traditionnel, un peu moins bling-bling, un peu moins musique. Sinon, n'importe quel pub fait l'affaire. Non, j'ai pas vu cette année de Saint-Patrick exceptionnel. Non, j'avoue que j'ai fait l'impasse.
Ok, bah alors on vous laissera découvrir. Pour finir, samedi 18 mars, toujours à l'électrode, seront en concert Funk Hip Rock, Yuna Project, Spirit Bomb et The Nurse. Ils aiment bien les noms anglais. Si vous ne connaissez pas tous ces groupes, on vous invite quand même à les découvrir. La programmation de l'électrode vaut vraiment le détour. On a souvent des bonnes surprises.
Carrément.
On se retrouve avec Isa juste après une petite pause. Elle nous éclairera sur le métier d'auxiliaire de vie.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight. We are young, so let's set the world on fire. time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
C'était We Are Young de Fun. Isabelle est avec nous pour nous parler d'un métier trop souvent dévalorisé. Salut Isa.
Salut.
Donc tu es auxiliaire de vie en EHPAD et tu es venue nous parler de ce métier complexe qui soulève beaucoup d'interrogations. La première, c'est quoi une EHPAD ?
Alors une EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes.
Très bien. Et en quoi consiste le métier d'auxiliaire de vie en EHPAD ?
Ben écoute, concrètement, on fait exactement le métier qu'une aide-soignante. C'est exactement la même chose. On va être celle qui sourit dans les hôpitaux, dans les institutions en général, parce que bon, c'est pas qu'en EHPAD, mais en général, ça veut dire que c'est une maison de retraite et que du coup, je serai celle qui sourit avec vos grands-parents, celle qui les chouchoute, celle qui les nourrit, celle qui leur donne leurs médicaments, leurs soins, et celle qui fait attention à eux.
Du coup, on parle d'aide-soignante et d'auxiliaire de vie. Pourquoi deux appellations pour un métier identique, comme tu viens de dire ?
Alors moi, je suis auxiliaire de vie parce que je ne suis pas diplômée aide-soignante.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a la formation qui dure, il me semble, un peu moins d'un an. Et au bout de cette formation, tu as ton diplôme. Sauf que quand tu n'as pas de formation, parce que c'est un métier accessible à beaucoup de filles, même sans diplôme, et d'hommes, mais du coup, on est juste auxiliaire de vie. Et la différence, ça se fait sur la paye.
Tu fais bien de préciser, il y a des hommes aussi qui font ce métier.
Oui.
Bien souvent cachés, on n'en parle pas beaucoup. En pourcentage
Oh, je ne saurais pas dire, il n'y en a pas assez, surtout que les hommes soignants sont dans des institutions particulières. On va les voir plus souvent en institution psychiatrique, par exemple.
D'accord. Au niveau donc, du métier à proprement parler, au quotidien, comment ça se passe une journée avec un patient, je dirais, mais on ne dit pas un patient apparemment.
Alors, dans un EHPAD, ce sont des résidents, parce qu'ils vivent ici, c'est leur foyer, c'est leur maison, donc ce sont des résidents. Ce ne sont pas des patients parce qu'un résident n'est pas obligé d'être malade.
D'accord.
Même si, en gros, concrètement, il doit être dépendant. C'est-à-dire que nous sommes là pour les accompagner. Donc, dans la journée, on va les accompagner. Donc, le matin, la journée va se commencer avec une toilette, avec un soin d'hygiène. Ensuite, il y a les repas, il y a les goûters. Tout ce qui se passe dans votre journée, mais accompagné avec un peu d'aide.
Tu travailles aussi à domicile parfois, donc tu parles du résident en EHPAD. À domicile, qu'est-ce qui change ? Comment ça se passe ?
Alors la différence déjà, c'est qu'à domicile, quand tu es auxiliaire de vie, ce sont des clients. Donc le rapport est différent. Ton client, c'est lui qui a raison. Et la différence, c'est très vaste, puisque à domicile, c'est beaucoup plus libre. Tu vas chez les personnes âgées, ils t'accueillent chez toi, donc tu dois t'adapter à leur chez eux. En institution, c'est très protocolaire et très surveillé. Donc, tu dois t'adapter aussi en institution, mais
c'est vous qui êtes aussi libre. Pour les courses, les choses
oui,
comme ça.
Oui, on fait un peu tout, du ménage, des courses, on fait à manger, autant qu'on peut faire des soins un peu plus techniques à domicile.
Au final, donc, vous vivez quand même avec ces résidents ou ces clients. Vous êtes, tout comme les médecins, confrontés à la mort. Vous créez des liens avec eux. Quelle est votre position vis-à-vis des familles ?
Alors, ce n'est pas facile parce que, bon, comment dire, on est souvent le lien entre justement les médecins, les infirmiers et la famille. C'est-à-dire quand la famille vient demander des nouvelles des patients qui ne sont pas forcément capables de répondre des fois puisqu'ils sont... pas forcément aptes à parler ou ils sont incohérents. Donc, on est le relais direct entre ce qui se passe à l'hôpital ou à domicile quand la famille n'est pas là et avec la famille quand elle demande des nouvelles et quand elle vient chercher, quand elle vient visiter les résidents, etc.
C'est vous qui êtes sur le terrain, le lien le plus direct ?
C'est nous qu'on...
Avant le médecin même.
Voilà, le médecin, il vient, il va donner les médicaments, il va faire son diagnostic, il va repartir. L'infirmière, elle va faire des piqûres, elle va suivre le traitement que le médecin lui a donné. Par contre, nous, on s'occupe H24 du résident, c'est-à-dire qu'on voit l'évolution, on le voit au jour le jour, à minute par minute, parfois même. Et du coup, quand il y a des nouvelles demandées, bon, ben, en général, la famille ne s'adresse pas forcément au médecin qui a le temps de passer la journée avec le résident.
C'est sûr que c'est important à souligner que ce n'est pas, comme tu dis, que les toilettes, les goûters et aussi les bons moments. C'est aussi donc, tous ces moments autour, tous ces mauvais moments en famille, le temps passé là-bas, j'imagine. Comment ça s'organise, cette polyvalence quand même, que ça vous demande, comment ça s'organise au quotidien pour votre vie privée? Comment vous arrivez à gérer ça?
Bah alors concrètement, j'ai toujours vu les choses d'une manière très simple, hein, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vivent comme toi et moi, ils ont besoin d'aller aux toilettes, ils ont besoin de se lever, laver et de manger comme tout le monde. Et toi, tu es là à ces moments-là. Donc j'ai presque envie de dire que je fais exactement ce qui se passe à la maison, mais oui, effectivement, c'est pas la même chose, puisque là, il faut que je le fasse pour 20 personnes en général. Donc 20 personnes, ça veut dire à peu près 10 toilettes à faire le matin. Les goûters, il faut tout préparer à l'avance. Enfin, c'est forcément une organisation délicate, mais je pense que chaque institution a la sienne. Chaque patient a besoin d'un encadrement différent, selon ses besoins respectifs.
Est-ce que tu peux nous parler des horaires, des contraintes de travail qu'il n'y a pas?
Oh là 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 là. Tu parles des week-ends que je passe à travailler pendant 22 heures, oui.
Par exemple.
Tu parles des week-ends que je ne profite pas avec mes amis, mais avec mes super petits vieux. J'adore ça, hein, j'adore passer mes week-ends avec eux, même mes semaines. Mais du coup, effectivement, ouais, c'est un métier où les gens sont malades tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont malades les jours fériés, ils sont malades le nouvel an, ils sont malades le dimanche. Et le dimanche aussi, ils ont besoin de manger et d'être soignés. Donc effectivement, c'est assez délicat parce que tu vois souvent tes week-ends s'envoler. Quand tu as des repos, c'est en semaine et tes amis travaillent. Donc en général, c'est très fatigant parce que c'est des journées longues. Quand tu as des journées longues, tu n'as pas envie de sortir le soir voir tes amis. Donc voilà, ça t'isole un petit peu. Des fois, tu es un peu en décalage avec tes amis non soignants.
Avec tout le temps que tu passes du coup, à ton travail, est-ce que tu dois bien avoir une anecdote ou deux à nous raconter?
Y avait une dame qui était Alzheimer. Elle avait 92 ans. Et c'est quand j'étais à domicile, donc j'allais chez elle souvent. Et en général, c'est le moyen, quand nous, on arrive à domicile, de prendre le relais avec la famille, justement. Donc pendant que son mari allait souffler un peu, se reposer de sa femme malade, moi, je m'occupais de sa femme. Donc il était parti se promener, acheter du bois et compagnie, et moi, j'allais me promener avec sa femme, donc en m'occupant d'elle. Elle était persuadée que son mari était parti la tromper.
Rappelle-moi l'âge.
92 ans.
Okay.
Et le problème, c'est que même si j'étais en train de lui tenir le bras, elle était convaincue qu'elle le trompait avec moi. Qu'elle l'a trompé avec moi.
D'accord.
Qu'il l'a trompé avec moi.
Donc, ouais,
c'était particulier. Donc à ce moment-là, pour trouver une petite parade, pour essayer de faire comprendre la situation. Donc ouais. Sinon, c'est des journées tous les jours différentes où vous allez voir dans le service débarquer un homme en slip, tout effaré.
Si c'est pas tout nu.
Oui, si c'est pas tout nu, ça arrive aussi souvent. Hein.
Donc c'est un métier dangereux aussi.
Ah oui, dangereux aussi. On a forcément des cas de violence. Hein. Quand on a des démences séniles, on peut être violent. Voilà, j'ai des bleus qui me le rappellent.
En tout cas, donc chaque moment est unique, comme tu dis.
Ah oui, c'est sûr, je m'ennuie jamais.
Juste une petite question comme ça. Tu disais tout à l'heure que donc vous faisiez le même travail, grosso modo, donc qu'une aide-soignante, mais avec la formation en moins. Est-ce que le fait de bosser sur le terrain peut être considéré comme formation à terme? Enfin, est-ce que tu as une équivalence par la formation sur le terrain par l'expérience, ou vraiment il faut passer par un cursus particulier?
Alors justement, il y a toujours des formations alternatives qui sont proposées. C'est-à-dire que quand tu es auxiliaire de vie à domicile, c'est vrai que le recrutement, sans avoir à cracher sur rien ni personne, n'est pas toujours facile. Par exemple, une auxiliaire de vie, ça sera peut-être une dame qui ne parle pas forcément français, mais elle sera apte, je veux dire, à un moment donné, on ne fait rien de compliqué non plus. Mmh. Que ce soit l'expérience, la formation, un diplôme ou un pas diplôme, je vous garantis que tous les jours, tellement que c'est différent, on en apprend tous les jours. Et les formations dans ce métier, il n'y en a jamais assez.
Ouais.
Elles sont proposées avec les diplômes, sans les diplômes. Il y a des réajustements qui se font tous les jours. Donc, des formations, il y en a Attire l'arigot.
On va dire en cas concret,
on va dire,
tu bosses pendant 2-3 ans,
il y a des alternatives.
Tu as une possibilité
d'avoir... Il y a des validations d'acquis avec les formations.
Ok, super. Voilà.
Ben, merci pour tous ces détails, Isa, qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux de ce métier et aussi de poser certains problèmes qu'on ne va pas détailler maintenant, mais qui peut-être, même au niveau de l'emploi et de sa valorisation, devraient être abordés plus souvent et être mieux connus. On espère vous avoir éclairé sur ce métier. On se retrouve juste après I'm a Lady Chakapong avec Panda qui va nous éclairer, lui, sur la Saint-Patrick.
Oh yeah! Check it out. Check it out. Check it out. Just check it out.
When I was a kid at the age of 5, I found a hole so far in my mind. There I could see what nobody sees. I was a lady, beware ladies. I was a shop for my redneck hen, 'cause they ain't got on me a thing. The dress of mommy and the jewelries, they'll never be so pretty like me.
De retour sur le plateau de première classe avec Panda qui va nous expliquer la Saint-Patrick.
Ah, la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, c'est litres de bière, sa folle fête. La loi Evin nous demande de stipuler l'alcool est à consommer avec modération. Et c'est fou comme ce jour-là, chaque personne autour de soi s'appelle modération. Du coup, on est obligé de boire avec chacun. Tout le monde connaît plus ou moins cette fête, beaucoup la pratiquent, mais peu connaissent la vraie histoire de cette fête. Allez, à la base, c'est une fête chrétienne. Saint-Patrick, puisque c'est de lui qu'il est question, offrira à l'Irlande le trèfle, depuis devenu symbole du pays, afin d'éloigner du pays les serpents diaboliques. Ces serpents étaient en fait les païens croyants aux religions polythéistes celtes, une image bien loin de la sympathie actuelle, donnant lieu à des chasses aux sorcières impitoyables à l'époque. Un synonyme de mort donc. Toutefois, la Saint-Patrick intervient en plein milieu du carême chrétien, et ce jour est le seul où l'on peut briser le jeûne afin de célébrer cet acte irlandais. Elle est officielle depuis le début des années 1600. Elle reste toutefois une fête religieuse et non une fête nationale. D'ailleurs, le jour férié n'est déclaré qu'en 1903. Mais alors pourquoi cette perception si forte d'un jour de fête représentant un État alors que ce n'est qu'une fête religieuse, Eh bien, c'est dans les années 90 que le gouvernement irlandais décide de faire de cette fête un symbole de la culture irlandaise à travers le monde. Le ministère de la Culture organise alors un grand festival culturel, dont la première édition se déroulera le 17 mars 1996. Au début suivi par quelques milliers de personnes, c'est aujourd'hui plus d'un million de participants qui se rendent en Irlande afin de participer à un festival qui maintenant s'étend sur des... sur près d'une semaine. Concerts, spectacles de rue, théâtre, feux d'artifice, foires, manèges. C'est un véritable lieu de fête au sens large, bien loin de la symbolique première. D'ailleurs, les autorités locales font tout pour gommer le côté chrétien de la chose, en imposant même un retour de la culture gaélique au premier plan. Un comble, quand on sait maintenant les bases de cette fête qui tend déjà à justement effacer toute culture locale. L'Église, elle, a bien tenté de récupérer cette fête, mais en vain. L'élan populaire est lancé et tous les expatriés irlandais au monde, et surtout aux USA d'ailleurs, se sont appropriés ce jour comme un jour de fête et de beuverie. En parlant de ces expatriés, où trouve-t-on les meilleures célébrations ? Bien à New York, c'est la plus grande parade avec 2 millions de spectateurs et des participants très nombreux, nombreux chars, nombreux festivals. Bref, c'est énorme. Du côté de Boston, on balance carrément des litres et des litres de colorant afin de rendre vert le fleuve de la ville. Plus étonnant, c'est à Buenos Aires, en Argentine, que l'on trouve une forte descendance irlandaise, avec ici aussi une fête assez énorme. Bien entendu, Montréal, ville de toute façon festive, crée un événement de grande ampleur. Traditionnellement, on s'habille en vert, au moins une partie de tissu, sinon on se fait pincer. On mange des spécialités culinaires irish en buvant des stouts, bière brune par excellence. La cornemuse est de sortie, les gilets se forment, et puis les premiers cadavres jonchent le sol, que ce soit de canettes ou de buveurs assoiffés ayant ingurgité leur boisson de façon trop rapide. Ne rigole pas, tu en connais, tu en as vu, hein ?
Tu l'as vécu ?
Non, jamais.
Et tout le monde l'a vécu aussi. Bref, la Saint-Patrick a déboulé dans le monde entier, et tout comme Halloween ou Mardi Gras, sa signification première a été totalement effacée par la fête populaire. Hier, chasse aux sorcières, aujourd'hui, chasse à la pinte et aux farfadets. Et franchement, entre nous, n'est-ce pas mieux ainsi ?
Merci Panda pour cette petite historique fort intéressante. Je ne savais pas qu'on pouvait briser le carême. Je ne savais pas qu'il y avait des fleuves colorés en vert. C'est assez énorme.
Boston est très connu pour ça. Oui, ça donne des images fabuleuses. Mm-hmm. Voilà, c'est vraiment une spécificité. Après, j'avoue que j'avais les bases de la Saint-Patrick plus ou moins. Mais c'est vrai qu'en croisant... Et encore, vraiment, j'ai fait vite fait. Parce qu'il y a des significatifs derrière, des significations qui sont vraiment lourdes de sens. On n'a pas l'impression comme ça, mais à la base, c'était vraiment pas une fête cool, quoi. J'ai pas voulu trop rentrer dedans, mais je veux dire, surtout en milieu, en terre catholique, dans des pays protestants, où ça a été très compliqué. Enfin, voilà, j'ai pas voulu trop m'étendre sur la religion, parce que c'était, enfin, il y a vraiment un côté pas cool, quoi. Mais maintenant, ça a carrément vrillé.
Comme on voit l'évolution, c'est bien de le savoir.
C'est une fête qui s'est voulue représentative de l'État. C'est appuyé avec énormément de subventions du gouvernement irlandais. Justement, le but était de casser ce côté, on va dire, religieux pour vraiment donner un esprit de fête à l'Irlande. Et franchement, ils ont très bien réussi. Je pense que chaque pays qui a une spécificité devrait... s'imprégner de ce genre de modèle de communication pour vraiment développer sa propre fête. Je pense notamment en France à la fête de la musique, qui est une invention française de Jack Lang, qui n'est pas développée comme il le faut au sens tricolore cocorico, et c'est vraiment dommage.
Très bien, merci pour ton point de vue. Comme on vous l'a dit cette semaine, on a exceptionnellement changé de format. L'émission touche donc déjà à sa fin. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à Isabelle d'être venue parler de son métier qui mérite d'être valorisé. Merci également à Panda pour la technique et pour nous faire un petit peu de culture musicale. On se quitte sur The Pogues, Dirty Old Town, pour se préparer à la venue des lutins.
Bisous.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch train. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Dirty old town, dirty old town.